Le journal de Caroline Toussaint.
Bonsoir. Le taux d'intérêt de référence pour les loyers n'augmente pas malgré la hausse des taux hypothécaires. C'est une bonne nouvelle pour les locataires dans un contexte d'inflation. Ce taux ne donne pas droit à de nouvelles prétentions de diminution ou de hausse de loyer. Pour Antruy, rime avec économie d'énergie. La ville va prendre des mesures pour faire face à de potentielles pénuries d'électricité. Des aides financières sont aussi proposées aux particuliers pour inciter à plus de sobriété. Le Giron jurassien des sports de neige est à l'aube d'une nouvelle saison. 16 jeunes bénéficieront de la structure des centres régionaux de performance en ski alpin et ski nordique. Des températures fraîches, une faible bise et des nuages tenaces, voilà ce qui nous attend demain, 2 décembre. Le week-end s'annonce lui aussi plutôt gris. Bonne nouvelle pour les locataires de Suisse. Le taux d'intérêt de référence établi par l'Office fédéral du logement reste fixé à 1,25% malgré la hausse des taux hypothécaires. Si le taux de référence augmente, il permet aux bailleurs d'augmenter le loyer, mais ce n'est pas le seul critère. L'inflation joue aussi un rôle. Le maintien du taux de référence à 1,25% constitue un soulagement pour le conseiller national socialiste genevois Christian Dandresse, avocat à l'ASLOCA, l'Association suisse des locataires.
C'est assez logique parce qu'en fait le taux est calculé aujourd'hui de manière un peu différente de ce qui était le cas au début des années 2000. Avant c'était les nouvelles hypothèques des banques cantonales, donc il pouvait y avoir des variations assez importantes. Aujourd'hui c'est des moyennes pondérées et donc les locataires n'en ont pas profité ces dernières années parce que les taux d'intérêt hypothécaires ont diminué plus rapidement que le taux de référence. Mais il est juste que maintenant que les hypothèques augmentent, le taux de référence suive lentement et qu'on n'ait pas ces mécanismes en dents de scie que précisément on avait voulu éviter par le passé. Et c'est aussi une bonne nouvelle parce que comme l'inflation est très forte et que c'est aussi un critère de majoration de loyer, si on avait en plus le taux d'intérêt hypothécaire qui était passé à 1,5, ça aurait justifié des majorations de loyer de presque 3%, ce qui aurait été une catastrophe dans le contexte actuel.
Le taux d'intérêt de référence est fixé tous les trimestres, il sera donc réévalué en mars. Le temps est compté pour les 4 candidats officiels au Conseil fédéral. Il ne leur reste que quelques jours pour convaincre les différents groupes du Parlement de voter pour eux. Les 246 élus fédéraux désigneront les successeurs de Willy Maurer et de Simonetta Sommaruga le 7 décembre. Après les candidats UDC hier et la jurassienne Elisabeth Baumschneider ce midi, nous donnons la parole ce soir à Eva Herzog. La deuxième candidate officielle du Parti Socialiste vient du canton de Bâle-Ville, siège depuis 2019 au Conseil des États. Elle nous raconte comment elle s'est lancée en politique, c'était en 1999.
On m'a demandé si je voulais être candidate pour le Conseil constitutionnel à Bâle. On voulait faire une révision de la constitution cantonale. Et puis je pensais, oui, ça m'intéresse vraiment. Comme historienne, je pensais que c'est une occasion de penser sur la société, de penser comment on veut s'organiser, les principes fondamentaux. J'ai dit oui, et j'ai été élue, c'était une surprise et ça m'a plu beaucoup. Un an plus tard déjà, on m'a demandé pour le Grand Conseil à Bâle. Je connaissais l'ère de la politique un peu mieux et j'avais remarqué que ça me plaît. Et je disais oui, et j'étais élue, encore une surprise. Et après 4 ans... Dans le Grand Conseil, on avait les élections où on voulait gagner la majorité vert-rouge dans le gouvernement de Bâle. Et je me suis présentée et puis j'ai été élue.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive à vous présenter à l'élection au Conseil fédéral ?
J'ai travaillé 15 ans dans le gouvernement de Bâle et ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup travailler dans l'exécutif. Je sais que c'est quelque chose qui va très bien pour moi. C'est une chose. Et l'autre chose, je suis très intéressée aux sujets qui se présentent aujourd'hui pour la Suisse. On vit dans un temps de crise. Ma plus grande créativité, je développe en temps de crise, de trouver des solutions, de trouver des compromis, d'essayer de améliorer quelque chose, parce que je pense dans des temps de crise, comme ils se présentent aujourd'hui, après Corona, maintenant cette horrible guerre en Ukraine, pour nous, ça pourrait être un moment de changement dans plusieurs problèmes importants où on ne fait pas de progression. On pourrait faire un grand pas. Et moi, j'ai beaucoup envie de former partie de ce changement dans un rôle actif comme dans le Conseil fédéral.
Une interview menée par notre correspondante à Berne, Marie Vieumier. Et notez que vous retrouvez tous ces entretiens au Conseil, des 4 candidats au Conseil fédéral sur notre site rfj.ch. Les multinationales qui ont leur siège ou une filiale en Suisse seront imposées selon la nouvelle norme de l'OCDE. Au minimum 15% de leurs bénéfices. Le débat s'est aujourd'hui focalisé sur la répartition des recettes supplémentaires entre 1 et 2,5 milliards par an. Le national veut que la moitié aille à la Confédération, l'autre moitié au canton. Le Conseil des États, le Conseil fédéral et les ministres cantonaux des Finances avaient opté pour 75% au canton, 25% à la Confédération. Ils doivent s'accorder d'ici au 16 décembre. Les amendes de la police cantonale jurassienne deviennent des codes QR. Jusqu'ici, elles se présentaient sous la forme d'un bulletin de versement accompagné d'un formulaire. À partir de demain, il faudra donc scanner ce code pour connaître à la fois le motif de l'infraction et le montant de la sanction. Les précisions de Léonie Adrover.
Une prune sur le pare-brise, oui, mais de combien ? Pour connaître tant le motif de l'infraction que le montant de la douloureuse, il faudra désormais scanner un code QR via une application de smartphone. L'opération redirigera l'utilisateur directement vers un portail baptisé « Portail des amendes de la police jurassienne ». Il faudra alors entrer le numéro d'amende, de même que le numéro de plaque ou la date de naissance, et ainsi lever le suspense sur les détails de l'infraction. Le même portail permettra de demander un bulletin de versement, de payer l'amende ou encore de la contester. Les personnes qui ne seraient pas équipées pour lire un code QR ont trois options. Se connecter au portail via Internet, contacter la police par téléphone au numéro figurant sur l'amende ou ne jamais commettre d'infraction.
Le ministère public jurassien réclame toujours 7 ans de prison en appel contre deux frères accusés d'actes d'ordre sexuel et de viol sur une enfant. La procureure a demandé confirmation ce jeudi du jugement de première instance rendu en mai dernier. Les deux frères avaient alors été reconnus coupables pour ces faits qui remontaient entre 2011 et 2015 aux Franches-Montagnes. La défense reconnaît les attouchements mais pas la contrainte et le viol. Elle conteste également les dates et place les faits entre 2010 et 2013 lorsque les prévenus étaient mineurs. Le jugement sera rendu demain matin. Porrentruy veut inciter à économiser l'énergie. Face aux annonces de pénurie d'électricité, les autorités municipales ont transmis un tout ménage résumant les gestes simples à adopter au quotidien. On en prend aussi que la ville va prendre des mesures et pour aider ses citoyens, des coups de pouce financiers sont proposés afin d'améliorer l'efficience énergétique de son commerce et de sa maison. Nancy Chapuis.
Les vitrines laissées allumées toute la nuit, ça semble d'un autre temps. Ainsi, pour aider les commerçants, des minuteurs seront proposés gratuitement. Les commerces pourront facilement être éteints de 22h à 6h. Pour les particuliers, on mise sur le LED. Deux magasins de la place offriront une réduction de 30% sur l'achat d'une ampoule de dernière génération. Une enveloppe de 10 000 francs est allouée pour ces deux mesures. Enfin, une subvention de 300 francs sera accordée aux propriétaires qui modernisent la pompe de circulation de leur installation de chauffage. À la clé, une économie de 10% de la consommation du ménage. Et pour montrer l'exemple, la ville va éteindre partiellement l'éclairage public de 00h30 à 05h30 jusqu'au mois de mars, et ce, dès la semaine prochaine dans 11 secteurs. Le centre ancien et les routes cantonales ne sont pas concernés. Et pour offrir un peu de magie de Noël, les illuminations seront installées, mais limitées, de 17h à 22h, uniquement sur les rues du 23 juin et des Bêches, ainsi qu'au Faubourg de France, avec pour objectif de favoriser l'attractivité des commerces Brun-Truc.
Le patois des Franches-Montagnes a toujours de belles années devant lui. Agnès Surdet en est convaincue. Elle est membre du comité de l'amicale des patoisans, le Taignon, qui remonte sur scène après 2 ans et demi de pause. Les Lauvrés des Taignons, se tiennent de vendredi à dimanche à la Maison des Œuvres à Lajoux. Au menu, 2 pièces de théâtre, celle des petits, celle des grands, ainsi que les chants de la chorale. Pour Agnès Surdet, le patois ne va pas s'éteindre de sitôt.
Je pense qu'il y aura toujours un intérêt d'une façon ou d'une autre parce que les gens qui ne seront plus là pour le parler et qui ont de l'intérêt, ils pourront toujours aller sur le site Jazan où il y a énormément de choses en patois, en français. Donc ceux qui veulent encore se pencher là-dessus et sensibiliser les enfants et d'autres personnes pourront le faire. Moi, je suis très motivée, donc je ne suis peut-être pas très objective, mais moi, j'y crois vraiment. Et puis, je vous dis, moi, je sens un intérêt quand même de beaucoup de monde pour cette langue. Et beaucoup de gens me disent, mais c'est bien ce que vous faites, continuez, c'est important. J'ai aussi un sentiment qui n'est pas forcément très exprimé, mais il y a une recherche des racines qui est toujours liée au patois. Et la recherche de racines, je crois qu'elle est éternelle.
13 enfants et une trentaine d'adultes seront sur scène de vendredi à dimanche à Lajoux pour les spectacles des patoisans Taignons.
Vous écoutez RFJ, il est 18h10.
Sport. Le Maroc s'adjuge la première place du groupe F de la Coupe du Monde au Qatar. Les footballeurs africains ont battu 2-1 le Canada cet après-midi. Ils se qualifient donc pour les 8e de finale. Le deuxième ticket revient à la Croatie qui a partagé l'enjeu 0-0 avec la Belgique. Dès 20h, tout reste ouvert dans le groupe E où 3 équipes peuvent encore finir première. D'abord l'Espagne et le Japon qui seront face à face, mais aussi le Costa Rica s'il bat l'Allemagne. Et que dans le même temps, les Espagnols et les Japonais font match nul. La Mancha Saft doit, elle, gagner à tout prix pour se qualifier. La Fédération française de football a officiellement déposé aujourd'hui une réclamation auprès de la FIFA pour faire changer le score du match remporté 1-0 par la Tunisie contre la France hier. Le but égalisateur d'Antoine Griezmann avait été annulé après le coup de sifflet final. La France relève que c'est contraire au protocole d'utilisation de la VAR, selon l'explication d'une source fédérale. Une hypothétique modification du résultat final ne changerait rien au classement final du groupe D. Mourad Yakin a tenu à rassurer Yann Sommer, Nico Elvedi, qui ne se sont pas entraînés ce matin, ainsi que Jerdan Shaqiri et Noah Okafor, blessés face au Brésil, seront aptes à tenir leur place demain lors du match décisif contre la Serbie. Le sélectionneur n'a en revanche rien dévoilé sur ses intentions quant à son 11 de départ. Retrouvez toute l'actualité autour de ce mondial dans notre journal de la Coupe du Monde à 18h30. Le Tour de France arrivera à Nice en 2024. L'épreuve cycliste désertera Paris pour la première fois depuis 1905 en raison des Jeux Olympiques, selon une annonce faite aujourd'hui. Deux hockeyeuses jurassiennes vont revêtir le maillot de l'équipe de Suisse dames pour la première fois. Les attaquantes Cindy Jauret et Laura Desbeux font partie de la sélection dévoilée aujourd'hui par le coach Colin Muller pour le tournoi des 5 nations. La franc-montagnarde de Thun et la joulotte de Lugano seront donc du voyage à Engelholm du 13 au 17 décembre. La Suisse affrontera l'Allemagne, la République tchèque, la Finlande et la Suède, pays hôtes. Les courses du col de Montvoix figureront finalement au calendrier 2023 du trophée jurassien. Les épreuves de course à pied et de VTT ainsi que celles de vélo de route se tiendront le dimanche 20 août à Fontenay sous forme de contre-la-montre. Alors que les responsables de la manifestation avaient rendu leur tablier après la dernière édition, un autre sous-comité s'est dernièrement formé au sein du GSA Joie pour reprendre le flambeau. Et c'est à nouveau l'heure de farter les lattes pour le giron jurassien des sports de neige. Les 16 athlètes du Centre Régional de Performance Alpin et Nordique vont bientôt reprendre les compétitions. Ils sont 11 en ski alpin, 5 en ski de fond à bénéficier de cet encadrement spécifique cette saison. Ce sont des jeunes athlètes âgés de 11 à 16 ans. Les fers de lance du giron jurassien sont Ilan Pitié en ski de fond et Amélie Klopfenstein en ski alpin, aujourd'hui dans des cadres nationaux. Il y a deux noms qui se profilent pour intégrer le Centre National de Performance de Viège cette année en ski alpin. Jérôme Ducommun, le chef alpin du giron jurassien.
Durant cette saison, on a deux jeunes, Lina Meyer et puis Kayodo, qui sont dernière année U16 et eux qui ont axé vraiment toute leur préparation pour accéder au centre national l'année prochaine. Ils ont aussi eu l'occasion de participer à des camps avec Swisski durant l'été et durant l'automne. Et je crois qu'ils sont prêts pour essayer d'atteindre cet objectif durant l'hiver en participant aux compétitions interrégionales et puis aux compétitions nationales, réussir à avoir les points nécessaires pour atteindre Brieg à la fin de l'hiver.
Quelles sont les nouvelles pour Amélie Klopfenstein après sa blessure de l'année dernière ?
La bonne nouvelle, c'est qu'Amélie a pu reprendre le ski durant cet automne, il y a quelques semaines. Et puis elle va comme ça pouvoir profiter de tout l'hiver pour s'entraîner, reprendre son niveau et puis pour pouvoir performer à nouveau et retrouver le niveau qu'elle avait avant à la fin de l'hiver.
La composition des cadres des centres régionaux de performance du giron jurassien est pratiquement uniquement neuchâteloise cette saison. Les ski clubs jurassiens notamment sont au creux de la vague en ce qui concerne le ski de fond. Mais ça n'inquiète pas Damien Pelaton, le chef nordique du giron jurassien.
Vraiment, on est lié au club. Donc les clubs ont plutôt des vagues en fonction des athlètes qu'ils ont. Et puis c'est avec Seignelay arrive maintenant avec un gros volume de jeunes. Et c'est vraiment, je pense, du côté de Seignelay qu'on va aussi pouvoir intégrer le plus de jeunes sur les années à venir. La Brévine aussi, un club vraiment jeune, avec beaucoup d'athlètes, mais plutôt jeunes. Et je pense d'ici 2 ans ou 3 ans, ils vont aussi réintégrer les cadres. Donc ce qui va nous amener à l'avenir, à avoir de nouveau un bon groupe au niveau des cadres CRP. Je crois que l'important pour le giron jurassien, c'est que nos 3 ski clubs formateurs ne soient pas dans le creux de la vague en même temps.
C'était un dossier proposé par Léonard Reichen. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.